d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM. Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. Aujourd'hui, une chronique comparative entre celui qu'au XIXe siècle on surnommait Badinguet, j'ai nommé Napoléon III, et celui qu'au XXIe siècle je surnomme Macronet et que je n'ai évidemment pas besoin de nommer. Oui. Contre la terre entière, je soutiendrai jusqu'au bout que Macronet veut jouer au badinguet. Faut-il lui rappeler que cela a plutôt mal fini pour l'empereur ? Prenons cette comparaison par le commencement. Macronet, lors de sa première investiture, a voulu montrer au peuple la grandeur de sa personne. Vous vous en souvenez peut-être, seul, à pied, Macron traverse la cour carrée du Louvre. La Marseillaise couvre les cris de joie de ses électeurs en délire. Les journalistes parlaient à cette époque d'un Macron se préparant à communier avec ses militants. Le blasphème ne leur fait pas peur. J'ai peu trouvé de caricatures de ce moment. En revanche, je vous conseille de regarder sur YouTube La Société du Spectacle, une vidéo critique de l'artiste vidéaste Maximilien Ramoul. Personnellement, je trouve que cette investiture ressemblait plus à un délire mégalomaniaque qu'à une prise de pouvoir par un président de la République. Mais revenons 165 ans en arrière. En 1852, le 2 décembre exactement, soit un an jour pour jour après son coup d'État, Napoléon III entrait dans Paris en grande pompe. Je rappelle que Louis-Napoléon Bonaparte ne fut jamais sacré empereur. En effet, le 21 novembre 1852, il fut plébiscité par le peuple après avoir été proclamé empereur par le Sénat. Taxile Delors, ce journaliste que j'ai déjà cité dans de précédentes émissions, a laissé le témoignage de cette journée dans « Histoire du Second Empire ». En voici un extrait. Les paysans endimanchés, les jeunes filles de Saint-Cloud vêtues de blanc et grelottant dans la brume de la matinée du 2 décembre 1852 attendaient le lendemain l'empereur à la grille du parc pour lui présenter des pétitions et des violettes. Le cortège, après une courte halte, reprit la route de Boulogne qu'il traversa sous un immense arc de triomphe surmonté d'un aigle tenant un foudre dans ses serres. Monsieur de Persigny, ministre de l'Intérieur, chevauchait à droite de l'empereur et à gauche le ministre de la Guerre, Saint-Armand, qu'un décret venait de créer maréchal de France en même temps que les généraux de division Magnan et de Castellane. Ce décret était motivé par leurs titres exceptionnels à la reconnaissance publique pour services rendus en décembre 1851. Le cortège, traversant le bois de Boulogne au trot, franchit la porte Maillot et suit l'avenue de Neuilly, bordée d'un côté par la garde nationale, de l'autre par la troupe de ligne. L'empereur, au pied de l'arc de triomphe, reçoit le salut des autorités. Il descend ensuite les Champs-Élysées pour se rendre à la place Vendôme dont il fait le tour en passant devant le front des troupes. Puis il entre dans le jardin des Tuileries. Monsieur Ségur d'Aguesseau s'était écrié dans la dernière réunion de la commission consultative « La voix de Dieu vient de se faire entendre, la France a prononcé le grand acte du 2 décembre, cet admirable coup de vigueur contre l'anarchie, contre l'un des foyers les plus ardents de la démagogie européenne, est désormais ratifié, consacré, glorifié par le peuple français. » Après cet exorde, l'orateur, déplorant la situation abaissée faite depuis 3 ans au chef de l'État, avait demandé pour faire cesser ce scandale que le président cessa d'être relégué dans un coin de la capitale et logea dans l'antique palais des rois héréditaires, seule résidence digne de lui. Le docteur Véron, serviteur non moins dévoué du prince, n'était pas de cet avis. Il conjurait au contraire Louis-Napoléon d'éviter cette demeure où l'on est exposé, disait-il, à prendre le vertige. Le palais des rois héréditaires n'avait servi Jusqu'alors qu'aux réceptions et aux fêtes de la cour, les princes et les princesses de la famille impériale y attendaient en ce moment l'empereur à l'un des balcons de gauche du pavillon de l'horloge. Le prince Jérôme, le prince Napoléon, le prince Lucien Murat, le duc d'Abilton se tenaient debout au balcon de droite. Le burnous blanc d'Abdelkader, auquel le prince président en passant à Amboise avait rendu la liberté, se détachait au milieu du grand salon, étincelant d'uniformes et d'habits dorés. De riches tentures de velours cramoisi recouvraient les grands balcons du pavillon de l'horloge sur les deux façades du jardin et de la place du Carrousel. Un coup de canon retentit et le drapeau tricolore se déploie sur le faîte du palais dans lequel le souverain fait son entrée. Napoléon III se montre au balcon donnant sur la cour où sont massés 10 000 hommes. Les tambours battent, les trompettes sonnent, les soldats présentent les armes. Le ministre de la guerre lit le plébiscite qui rétablit l'Empire. Un petit intermède avec ce qui fut considéré comme l'hymne national sous le Second Empire. Partant pour la Syrie, une chanson écrite en 1810 par Hortense de Beauharnais, la belle-fille de Napoléon Ier et la mère de Napoléon III. Voici ce que Pierre Larousse, fervent républicain, écrivait à propos de ce chant national. Napoléon III et les membres de son auguste famille n'ont pu faire un pas en France et à l'étranger pendant 18 ans sans que tous les cuivres de la localité leur sonnassent aux oreilles l'air de la reine Hortense. Cela passait pour leur être fort agréable. La révolution du 4 septembre nous a enfin débarrassés de cette écœurante mélodie. Voici donc, partant pour la Syrie, surnommée la reine Hortense. Je laisse à votre sagacité le travail de comparaison entre les deux hommes. Un autre point les rapproche, enfin rapproche Macronet de Badinguet, car vous avouerai-je que j'ai plus d'indulgence envers le second qui a laissé, malgré tout ce que l'on peut reprocher au Second Empire, une histoire littéraire, sociale, économique, artistique, musicale, etc. Alors que l'ère macronienne ne laissera que ruines dans les mêmes domaines. Ce point donc est la femme. En effet, Napoléon III imposa Eugénie, car descendant de Napoléon Ier, il ne pouvait espérer une épouse parmi les princesses européennes. Voici ce qu'écrivait la comtesse Stéphanie Philippine de Thatcher de la Pagerie dans son livre de souvenirs « Mon séjour aux Tuileries ». De la famille de Joséphine de Beauharnais, elle eut sa place au palais des Tuileries dès l'avènement du Second Empire. L'Empire, une fois créé, tout le monde souhaitait que l'empereur se mariât. Monsieur Troblon, le premier, haranguant le souverain au nom de la commission du Sénat, émit publiquement le vœu de voir Napoléon III se choisir une épouse qui pût s'asseoir à côté de lui sur le trône et assurer l'avenir en perpétuant la dynastie. Le prince y pensait, et suivant en cela les traditions, cherchait une alliance parmi les maisons régnantes. Il entretenait souvent mon père de ses espérances, et mon père, bien qu'il n'ignorât pas l'hostilité qu'un tel projet rencontrait, tout particulièrement de la part des princesses allemandes, telles que la reine Élisabeth de Prusse, l'archiduchesse Sophie d'Autriche, la reine Marie de Saxe, mon père l'encourageait respectueusement à poursuivre ce dessein. Les difficultés étaient grandes. Malgré les acclamations frénétiques qui accueillaient partout Napoléon III sur son passage, malgré l'adhésion unanime de la France, on ne considérait point à l'étranger comme stable, comme ayant des chances de durer, le nouvel établissement impérial. C'était l'opinion à Vienne, à Berlin et particulièrement à Saint-Pétersbourg, où l'altier et despotique empereur Nicolas avait eu soin de supprimer le mot « frère » dans la lettre qu'il avait adressée à l'empereur des Français. À ce moment-là, chacun parlait du mariage de l'empereur et se faisait une opinion pour ou contre telle ou telle princesse. Lorsque tout à coup, un nom fut prononcé dans les salons, tant amis qu'opposants, qui provoqua un étonnement général. Il ne s'agissait plus d'un de ces mariages de convenance commandés par la politique et conclus par la diplomatie, mais d'une union dictée par la vive inclination du prince, en un mot d'un mariage d'amour. En 1866, parut Histoire anecdotique et populaire de Napoléon III d'un auteur anonyme. L'on trouve dans ce livre ce passage concernant le fameux mariage. Le 16 janvier 1853, Napoléon III convoqua aux Tuileries le Sénat, le corps législatif et le Conseil d'État et leur annonça son mariage avec une jeune Espagnole, Mademoiselle Eugénie de Montijo, comtesse de Théba. Celle qu'il avait choisie pour porter le diadème des souverains de France, auquel toutes les raids ont toujours porté envie, n'était point une princesse de sang. Napoléon III expliqua avec une noble fierté, au corps constitué réuni autour de lui, le caractère de cette alliance. « Quand en face de la vieille Europe, dit-il, on est porté par la force d'un nouveau principe à la hauteur des anciennes dynasties, ce n'est pas en vieillissant un blason et en cherchant à s'introduire à tout prix dans la famille des rois qu'on se fait accepter. » C'est bien plutôt en se souvenant toujours de son origine, en prenant franchement vis-à-vis de l'Europe la position du parvenu, titre glorieux lorsqu'on parvient par le libre suffrage d'un grand peuple. Il termina ainsi. « Je viens donc, messieurs, dire à la France, j'ai préféré une femme que j'aime et que je respecte à une femme inconnue dont l'alliance eût eu des avantages mêlés de sacrifices. Sans témoigner de dédain pour personne, je cède à mon penchant, mais après avoir consulté ma raison et mes convictions. Enfin, en plaçant l'indépendance, les qualités du cœur, le bonheur de famille au-dessus des préjugés dynastiques et des calculs de l'ambition, je ne serai pas moins fort puisque je serai plus libre. Bientôt, en me rendant à Notre-Dame, je présenterai l'impératrice au peuple et à l'armée. La confiance qu'ils ont en moi assure leur sympathie à celle que j'ai choisie. Et vous, messieurs, en apprenant à la connaître, vous serez convaincus que cette fois encore, j'ai été inspiré par la Providence. » Un petit intermède avec l'hymne national et royal, « Seigneur sauve le roi », que Charles Gounod ajouta à la fin de sa messe solennelle en l'honneur de Sainte-Cécile, et qu'il modifia pour Napoléon III, faisant de cet hymne l'hymne pour le chef d'État. Voici donc « Domine salvum fac imperatorem nostrum Napoléonem », c'est-à-dire « Seigneur, sauvez notre empereur Napoléon ». Cette messe créée en 1855 est ici dirigée par Georges Prêtre. En 69 ans après la déclaration de Napoléon III, Macronet, en 2022, se confiait à un journal féminin quelconque. « Je pense que quand on occupe ces fonctions, il faut garder un équilibre intime et familial. Et grâce à elle, je l'ai. Et c'est très important parce que c'est ce qui vous permet d'avoir des moments de recul, des discussions, en vérité, des moments aussi d'intimité, d'affection, d'amour avec votre épouse. Je ne pense pas qu'on puisse exercer ces fonctions et décider s'il n'y a pas un équilibre affectif. » Le pronom « elle » représente évidemment Brigitte. Quant au rôle des épouses de Badinguet et de Macronet, il porte avant tout sur la représentation. Eugénie était, selon les témoignages de l'époque, belle, gracieuse, élégante. Voici d'ailleurs son portrait par la princesse Pauline de Metternich, la femme de l'ambassadeur autrichien, grande amie du couple impérial. Le charme que l'impératrice exerçait sur tous ceux qui l'approchaient avait agi sur moi. Et j'étais subjuguée tant par sa grâce, sa bonté, que par sa ravissante beauté. Les traits étaient d'une finesse extrême. L'expression des yeux douce et intelligente, le nez, la bouche, l'ovale de la figure, la forme de la tête, le cou, les épaules d'une rare perfection. Les dents belles et bien rangées, le sourire délicieux. Ce qui m'a surpris, c'est que l'impératrice peignait ses sourcils et les contours des yeux. Et cela très franchement avec de gros traits au crayon noir. J'ai appris plus tard, et cela par elle-même, qu'elle avait pris cette habitude, ayant en horreur les sourcils et les cils blonds qui, disait-elle, donnaient l'air bête et effacé. La main de Sa Majesté était petite, jolie et élégante. Quant à ses pieds, ils étaient ceux d'une Andalouse de pur sang. Et c'est tout dire. Mais ce qui, à mon avis, surpassait encore sa réelle beauté, c'était sa grâce incomparable, car chacun de ses mouvements était si gracieux qu'on aurait pu la peindre dans chacune de ses poses. Les cheveux de l'impératrice avaient une teinte roussâtre. Autrefois, m'a-t-elle dit un jour, j'étais rousse comme une carotte. J'admirais donc sans réserve cette belle souveraine, dont la mise et le goût qui l'avaient fait décréter la reine de la mode incontestée, m'émerveillaient par leur grande simplicité et leur élégance de si bon aloi. Elle continuait à causer avec une animation extraordinaire, et tout en mettant son entourage et ses interlocuteurs à l'aise, elle ne faisait pas oublier un instant la très grande dame qu'elle était de naissance. Rien en elle n'était appris ni apprêté, c'était le naturel avec tout le charme que tout manque de pose comporte. Et son rôle est bien défini par Taxile Delor que j'ai déjà mentionné. L'impératrice Eugénie allait être chargée de cette tâche délicate, soutenir sans trouble comme sans hauteur les regards de tant d'individus qui vous examinent sans cesse, prendre sans en avoir l'air sa part de responsabilité dans le gouvernement, et la plus dangereuse peut-être, se montrer à la fois sérieuse et frivole, femme d'intérieur et femme du monde, avoir de la religion plus que de la dévotion, s'occuper de mode sans affectation, de littérature sans pédanterie, de politique sans embarras, lire ce qu'il faut qu'une femme instruite ait lu, dire tout ce qu'une femme d'esprit peut dire, savoir parler aux femmes et aux hommes, aux jeunes gens et aux vieillards, être en un mot toujours en scène. C'est le rôle d'une reine. Et Brigitte, pour la beauté et la grâce, on m'excusera de ne pas me prononcer. En revanche, en ce qui concerne son rôle, il suffit de lire la charte édictée par Macronet en août 2017. Le conjoint du président de la République assure la représentation de la France aux côtés du président de la République lors des sommets et réunions internationales. Officiellement invité par les organisateurs de ces sommets ou réunions internationales, comme tous les conjoints de chefs d'État ou de chefs de gouvernement, Madame Brigitte Macron accompagne son époux. Elle dispose d'un programme officiel propre aux conjoints. Elle peut également prendre part à des actions nationales et internationales mises en place avec d'autres conjoints de chefs d'État, notamment pour lutter contre le changement climatique ou encore les violences faites aux femmes et aux enfants. Réponse aux sollicitations des Français et des personnalités françaises et étrangères qui souhaitent la rencontrer. L'épouse du chef de l'État reçoit chaque jour plus d'une centaine de courriers auxquels s'ajoutent les courriels et les appels téléphoniques qui lui sont directement adressés. Elle répond à l'ensemble de ses sollicitations, soit par courrier, soit par des rencontres. Supervise la tenue des manifestations et réceptions officielles au sein du Palais de l'Élysée. Soutient par son parrainage ou sa présence des manifestations à caractère caritatif, culturel ou social, ou qui participent au rayonnement international de la France. Dans la ligne des priorités fixées par le président de la République pour son quinquennat, Madame Brigitte Macron sera également chargée de maintenir un lien continu d'écoute et de relations avec les acteurs de la société civile dans les domaines du handicap, de l'éducation, de la santé, de la culture, de la protection de l'enfance ou encore de l'égalité homme-femme. À ce titre, elle est amenée à soutenir les initiatives publiques ou privées qui permettent à la société d'être plus inclusive face aux différences. Sous le Second Empire, combien d'artistes, d'écrivains, de compositeurs tombèrent dans la flagornerie ? Mais il me semble qu'aujourd'hui, rien n'a changé. Combien d'histrions voit-on autour du couple présidentiel ? Il faut dire que ce genre d'attitude rapporte bien, que l'on vive sous Badinguet ou sous Macronet. Autre ressemblance, les discours. Avant le plébiscite de 1852, Badinguet proclamait « Par esprit de défiance, certaines personnes se disent « l'Empire, c'est la guerre ». Moi, je dis « l'Empire, c'est la paix ». C'est la paix car la France le désire, et lorsque la France est satisfaite, le monde est tranquille », etc., etc. et en 1854, c'était la guerre de Crimée. En 2017, Macronet aussi parlait de la grandeur de la France et de la paix. Le monde et l'Europe ont aujourd'hui plus que jamais besoin de la France. Ils ont besoin d'une France forte et sûre de son destin. Ils ont besoin d'une France qui porte haut la voix de la liberté et de la solidarité. Ils ont besoin d'une France qui sache inventer l'avenir. La France veillera toujours à être aux côtés de la liberté, des droits de l'homme, mais toujours pour construire la paix dans la durée. Etc, etc. Et nous savons ce qu'il en est. Le Second Empire fut la grande époque des courtisanes. Et sous la Macronie, mais je préfère me taire car je finirai par avoir des problèmes avec Sandrine Rousseau ou Aurore Berger, les néo-féministes. En revanche, je peux sans problème évoquer le luxe, l'argent et les fêtes que ces deux pouvoirs ont su générer, évidemment toujours pour la même classe sociale. Le Second Empire vit l'enrichissement d'un grand nombre et la bourse, née sous Louis-Philippe, fit la fortune des spéculateurs. Les grands travaux d'Haussmann favorisèrent les opérations immobilières, les chemins de fer enrichissèrent les actionnaires, les banques s'épanouirent, les industriels s'installèrent dans l'opulence, comme Peugeot, alors fabricant de moulins à café, d'outils, de scie à ruban, de baleines de parapluie et des fameuses montures d'acier pour les crinolines, qui prospéra si bien qu'il prospère encore aujourd'hui. Les politiques profitèrent bien aussi, comme les Poniatowski, les Jocks, qui descendent de Ludovic à Lévy. Académicien qui commença sa carrière comme secrétaire-rédacteur au corps législatif sous la responsabilité du duc de Morny, le demi-frère de Napoléon III. Il fera ensuite une belle carrière de librettiste, de vaudevilliste et de romancier. Ce que je vous ai dit là n'est qu'un aperçu, évidemment. Et sous la Macronie, nous avons les mêmes auxquels il faut rajouter des journalistes grassement rémunérés, des youtubeurs affligeants, des chanteurs sans voix, des DJ à la mode, des Hanouna, des Christian Barbier. Et la différence entre Badinguet et Macronet se tient là. Ceux qui entouraient Napoléon III, qui s'enrichirent, ont laissé des œuvres, un nom. En revanche, ceux qui entourent Macron, qui s'enrichissent, ne laisseront rien que le soulagement de ne plus les voir. À la veille des événements de 1870, la cour impériale n'avait rien perdu de son éclat. Malgré les nuages amoncelés à l'horizon et l'orage qui grondait sourdement au dehors, le calme, l'insouciance, l'aveuglement, la préoccupation dominante du luxe, de l'apparat et du plaisir semblaient régner au palais, comme dans tout le brillant monde du reste. En songeant à ce riant décor derrière lequel se préparait la plus épouvantable et la plus soudaine des catastrophes, il est impossible de ne pas faire un rapprochement qui s'impose entre le déclin du règne de Napoléon III et les années qui ont précédé la Grande Révolution. Se souvient le comte de Mauny, dit Z, dans « Souvenir du Second Empire », écrit en 1889. Depuis 2017, l'indécence des actionnaires du CAC 40, l'insouciance des nouveaux riches qui poussent comme des champignons, le luxe de l'Élysée et de ses satellites, le décor d'opérette que diffusent les chaînes étatiques ont caché la colère qui éclate aujourd'hui. Alors peut-être sommes-nous nous aussi à la veille de l'écroulement de la Macronie. Sur ces paroles d'espoir, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir. Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.